Hey, I can't find nothing on the radio.
La mécanique des ondes.
Yo, turn to that station.
Mécanique.
Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui raconte chaque mois à la radio à partir des parcours, des carrières de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Et on parle beaucoup de FM dans cette émission, hein, c'est vrai, et bah cette mécanique va se tourner vers FM, France Musique. Radio qui était, rappelons-le, la première radio diffusée sur modulation de fréquence en 1954, un programme musical initié par Jean Tardieu du temps de la RTF. Et mon invité, lui, en est le chef d'orchestre depuis 2015. Mon invité se nomme Marc Voinchet. Bienvenue à vous.
Et bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre belle radio.
Eh bien, c'est un plaisir. France Musique, donc, on ne la présente plus, radio historique de Radio France, et qui mélange musique classique, mais pas que.
Absolument, oui, parce que à une époque, un grand directeur de France Musique voulait mettre un S pour montrer qu'il y avait plusieurs et tout type de musique, parce qu'en fait, c'est une chaîne qui, c'est vrai, a toujours du mal à, au fond, se nommer, parce qu'elle a, oui, du classique, oui, du jazz, oui, de la comédie musicale, oui, de la création, oui, du bal musette, oui, de la guitare, oui, de l'accordéon, arrêtez-moi, hein, oui, des, voilà. Et donc, voilà. Mais le singulier, c'est la partie pour le tout, vaut aussi bien que le S de bouteille.
Alors, on va y revenir à France Musique, mais juste avant, on va commencer par le commencement. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Marc Voinchet, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs?
Ben oui, mon petit cœur bat, là, mine de rien, bien sûr. Ben, ça me rappelle, il y a... On ne peut pas le cacher, désormais. Il y a 40 ans, quand les radios libres sont créées, quand on sort du concept de radio pirate et qu'on autorise... les gens à faire de la radio. Moi, je bénéficie de ce moment-là, en 81. Et je suis fasciné par la radio depuis toujours parce que je l'écoute. Mes parents, pour bien m'élever, ne voulaient pas avoir de télévision. Donc j'ai évidemment regardé la radio et écouté la radio comme j'aurais bouffé de la télé. Et donc j'ai envie de faire ça. Et j'ai le pot qu'effectivement, il y a cette date qui arrive au moment où je peux en faire. Donc je me souviens très bien, je voudrais rendre hommage ici à Radio Occitanie et à Radio Éphémère, où j'ai usé quelques bonnettes.
Alors, Radio Occitanie, justement, c'était Radio Occitanie d'abord ?
Oui.
Alors, comment vous êtes arrivé à Radio Occitanie ?
Je suis arrivé, c'est un copain qui en faisait des... Un copain de classe, j'étais au lycée, un copain de classe qui faisait de la radio le samedi après-midi, faisait une émission de je sais plus quoi, quand je l'ai tout d'un coup, j'ai honte, attendez, et enfin c'est très vite devenu une émission de cinéma, et c'est très vite devenu 2 heures hebdo de magazine culturel, alors toujours d'ailleurs avec la figure de Bouteiller, José Arthur, tout ça, qui s'appelait Bonbon Caramel, et où je parlais, j'interviewais des cinéastes, tous les comédiens, les gens qui passaient, j'étais à Toulouse, hein, qui passaient à Toulouse, et ça se voulait être un magazine culturel, voilà.
Le cinéma, d'ailleurs, c'est une de vos grandes passions, je crois. Hein. D'ailleurs, vous avez fait une comparaison intéressante, j'avais lu ça, entre la place d'un animateur radio et puis de cinéastes comme Chaplin ou Gene Kelly. Alors, je vous cite, « Apporter une forme d'élégance paisible à un moment où les gens en ont besoin, essayer de faire passer un peu d'affection, faire attention aux gens et au ton que l'on a en s'adressant à eux. »
Oui, parce que ça reste, je sais plus quand j'ai dit ça, bravo. Oui, mais je pense que c'est plus que jamais quand on a ressorti un peu ce slogan qui était un ancien slogan de France Musique, ce monde a besoin de musique. Si vous pouvez remplacer le mot musique par tendresse, et ça marche aussi, ou d'affection, un peu de fraternité, ça peut pas faire de mal. Et oui, je pense qu'on est là pour faire attention aux autres, oui, quand on fait de la radio.
Et alors, on va revenir à vos premières années radiophoniques, Marc. Alors, avant la radio, dans votre enfance, moi j'avais lu aussi que vous aviez cette envie de divertir et de faire du spectacle. Vous aviez un magnétophone dans lequel vous faisiez certaines imitations.
Oui, vous êtes très 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 bien renseigné. Oh là là, oui, j'ai eu un jour comme cadeau de Noël un magnétophone à cassette. Et comme j'écoutais aussi beaucoup, j'écoutais tout à la radio, donc j'écoutais, je me souviens, l'Oreille en coin du dimanche matin, où il y avait des imitateurs. C'est la grande époque de Thierry Leluron aussi, alors que je voyais un peu à la télé quand j'allais chez mes grands-parents et tout ça, donc j'ai voulu faire pareil. J'ai aussi enregistré des bandes dessinées, j'ai fait toutes les voix. Et je remercie quand même, quand j'y pense, mes parents de la patience énorme que, que j'y repense. Parce que j'enregistrais, par exemple, je crois, tout un Spirou, je faisais toutes les voix, machin, ou tout un, et j'ai obligé mes parents à lire la BD en même temps que les dialogues et tout ça. Enfin, ça prend du temps. Alors. Et donc, oui, c'est, franchement, ils ont été très patients parce que, voilà.
Alors, pour vous dire que le virus de la radio, ça touche toutes les générations. Moi, quand j'étais petit, je faisais pareil, mais je faisais super ça à mes sœurs.
Ah, voilà. Oui.
Au magnétophone aussi.
Donc elles sont sympas vos sœurs quoi. Ouais. Ça vous êtes pas brouillés.
Non, tout va bien. Bisous à elles si elles nous écoutent. Donc retour à la radio. Radio Occitanie, c'est une aventure qui avait duré combien de temps? Parce qu'il y a eu radio éphémère après, je crois.
Oui, enfin même pas en même temps, ce qui était parce que à tout d'un coup on se rencontre, je rencontre des copains à la Cinémathèque de Toulouse où j'étais tout le temps fourré, qui eux font une émission de cinéma à radio éphémère, donc on a qui me demandent de faire des trucs avec eux, donc écoutez, ça a duré 5-6 ans, 7 ans, enfin facile tout, à peu près tout ça.
Et ça a été très formateur.
Oui. Alors ça, formateur et parce que on apprend sur le tas, on fait forcément des bêtises, on apprend aussi beaucoup par l'imitation. Moi, je dis toujours ça, c'est pas du tout un truc qu'il faut cacher, c'est-à-dire qu'on écoute ce que font les autres et on essaie de comprendre comment ils le font et on essaie de les copier un peu, tout en après s'arrogeant évidemment les choses, mais ouais, c'est comme ça qu'on découvre comment on fait un conducteur, comment. Voilà, qu'il y a des petites règles par-ci par-là à respecter, de qu'est-ce qu'on passe d'abord comme musique, avant, après, voilà, qu'est-ce que. Voilà, il y a tout un truc qu'on apprend sur le tas. Et bon, moi, j'ai appris la radio uniquement que comme ça, effectivement. Oui. Donc, puis en regardant beaucoup les autres faire. J'ai eu la chance un jour de pouvoir mettre un pied dans ce qui s'appelait à l'époque Radio France Toulouse, mais même qui s'appelait FR3, Radio Midi Pyrénées, j'ai l'impression d'avoir 125 ans, là. J'ai regardé beaucoup les techniciens, moi, comment manipuler un agra, tout ça, enfin, et j'ai appris en regardant et en ayant, c'est vrai, la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, oui.
Vous parliez de Radio France Toulouse, alors ça tombe bien, puisque c'est la suite de votre parcours, justement. Vous êtes passé de radio associative à service public.
Oui, parce que j'ai là aussi beaucoup de chance de rencontrer un jour un journaliste que je vais voir. C'était un type qui avait un agra sur l'épaule, il faisait un reportage. Je vais le voir, vous êtes journaliste, tout ça. Bon, et on sympathise avec ce gars qui, apparemment, ma tête lui revient bien. Et il s'appelle Christian Neve et il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait faire des trucs comme ça, vraiment sur le tas. Et il était correspondant pour France Culture à l'époque à Toulouse. Et un jour, il me dit, écoute, j'ai de plus en plus de boulot et machin, je vais pas pouvoir faire ça. Est-ce que ça t'amuse que je te propose pour faire des reportages l'été pour France Culture? Alors, moi, j'étais évidemment complètement aux anges. Et je l'ai fait. Et je me souviens, c'est comme ça, alors, quand je vous dis qu'on apprend, je me souviens très bien, par exemple, que le premier reportage que j'envoie était sur le festival de guitare de Tarbes. Il devait passer, je sais plus quel jour, à telle heure, et il ne passe pas. Et je me dis, ta carrière est foutue, le truc devait être très mauvais, et c'est fini. Genre, je me fais tout un cinéma, et puis au bout de 2-3 jours, j'appelle au bureau du Panorama, de France Culture, et je leur dis, c'est Marc Vouinché, voilà, d'une cabine téléphonique, c'est tout ça, vous voyez, j'ai 175 ans, là. Et je leur dis, voilà, il y a un truc sur la guitare qui devait passer, ça vous a pas plu, c'était pas bien, tout ça. Et là, une assistante que j'ai très bien connue après me dit, ah mais non, vous savez, la radio, non, il y a eu un problème de temps, et voilà, il n'y a pas eu le temps de passer, quoi, c'est tout. Pas plus. Non, au contraire, on va continuer de faire des choses avec vous. Ah voilà, bon, voilà, la radio, c'est ça.
Il n'y a pas eu de frustration quand même
Il est passé quelques jours après, en plus.
Ah bon, ça va alors.
Tout simplement, voilà, et puis j'en ai fait d'autres, surtout, notamment les festivals de Midi-Pyrénées à l'époque.
Et du coup, Radio France Toulouse, ça a été une formateur aussi d'une autre manière.
Oui, alors parce que, pour tout vous dire, quand donc je dois envoyer par KB, ceux qui savent comprendront, donc par un système, voilà, le reportage à Paris, je l'envoie d'une cabine qui est à Radio France Toulouse. Bon. Et en fait, je dérange tout le monde, là, je dérange tout le monde. Chaque fois que je viens, enfin, il faut le réserver, le truc, tout ça, bon. Et un jour, je vois une jeune femme se planter devant moi et m'engueuler un peu en disant, mais qu'est-ce que vous faites là, à chaque fois? Là, vous prenez la cabine, les nagras, tout ça. Je dis, ben, je fais des reportages pour France Culture et tout et tout. Et alors, vous voulez pas travailler pour nous un peu? Enfin, comment ça? C'est pas, cette fille à qui je veux rendre hommage, Isabelle Delotte, qui est une amie intime aujourd'hui, me met le pied à l'étrier. Et elle me fait faire des journaux l'après-midi, le dimanche après-midi, journal de 18h. Et je vous la fais bref, parce que vous allez voir. Un jour, je fais mon premier journal. Plutôt quand Benet est content de moi. 18h38, et ça, le téléphone sonne. C'était elle, qui était rédactrice-chef à l'époque. Et elle me dit, ça va, tout va bien? Je dis, oui, ça va, ça va. Vous êtes content de vous? Oui, ça va. Bon, et là, je comprends qu'il y a un truc qui va. Elle dit, bon, et vous savez où vous êtes, là? Et j'ai dit, oui, je suis... Oui, mais oui, c'est quoi qu'il y a? C'est à Toulouse, Radio France... Oui, à Toulouse, à Radio France Toulouse. Et qu'est-ce qu'il y a le dimanche à Toulouse? Ben, j'ai dit, oui, il n'y avait pas beaucoup d'actu aujourd'hui. Il y a le rugby. Donc, on démarre un journal avec les résultats, et moi je suis toulousain en plus, du rugby, pas à la fin, comme si on était sur France Inter, ou voilà. Et ben ça, je peux vous dire, c'est des trucs... Vous tout de suite, quoi. Ça vous apprend quelque chose, et ça le dépasse même, quoi. Ça apprend plein de choses à la fois. Cette petite remarque-là, j'ai plus jamais fait la bêtise, évidemment. Voilà, et puis comme écrire, tout simplement, écrire court, ne pas mettre des relais. Moi, j'étais étudiant en lettres, donc je faisais des phrases qui n'en finissaient pas, je m'étouffais en les lisant. Enfin, c'était bon. Je me dis non, c'est pas du tout que c'est au rabais, c'est pas rabaisser le truc, c'est il faut écrire court, quoi. C'est sujet, verbe, complément, mais pas toutes ces relatives qui fait qu'on ne sait plus à la fin le sujet de la phrase, quoi.
Toujours cette contrainte de temps aussi.
Voilà, qui fait donc sur le tas, tout ça a pris sur le tas, évidemment.
On va continuer à feuilleter votre parcours radiophonique, Marc Voinchet, avec une première pause musicale, histoire de nous aérer un petit peu. Et alors, un morceau qui va nous aérer l'esprit, ça tombe bien, c'est raccord, c'est Scarlatti, sonate pour clavecin en ré mineur, K1 L336, par Bertrand Cuiller. Scarlatti, donc à l'instant dans la mécanique des ondes et sur fréquences protestantes, choisi par Marc Voinchet, directeur de France Musique. Alors, pour être corporate, ce son-là provient justement de France Musique et de la maison de la radio.
Voilà, ça c'est les techniciens de Radio France, c'est le son de la maison de la radio. Et c'était une énorme opération qu'on avait envie de mener après 30 ans après la mort de Scott Ross, de refaire une sorte d'intégrale Scarlatti, mais différemment, avec plein de caféinistes, une caravane qui s'est promenée autour de Montpellier et d'Assas en juillet 2018 pour fêter cet homme Scarlatti. Vous avez entendu, voilà, c'est ce que je disais, la tendresse, la joie, l'urbanité, l'attention, c'est une chanson. C'est déjà. Je sais bien que les puristes ont trouvé que c'est sacrilège. Ça échappe complètement à son époque. C'est l'époque baroque, c'est vrai, mais l'époque baroque, c'est des opéras qui durent 4h30. Scarlatti fait des petits morceaux. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à quelqu'un. Il apprend à jouer du clavecin à une jeune femme qui est une infante du Portugal qui va devenir reine d'Espagne, Maria Barbara, et qui est toquée de clavecin. Je pense qu'elle doit être aussi complètement toquée de Scarlatti, mais au bon sens du terme, parce que tous les jours ou presque, enfin, il y a une leçon. Il lui écrit des airs pour qu'elle les joue. Et donc c'est une. J'ai l'impression quand on entend Scarlatti, c'est une conversation. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre avec bienveillance, avec parfois un peu de causticité, de rouerie, parce qu'il y a des pièces qui sont très dures à jouer hein, dedans. Mais c'est ça, et ça en fait 555. Et nous, on en a inventé une... Scott Ross avait inventé une 556e, et nous, on en a fait une 557e pour rester dans la tradition. Mais vous voyez, y a, ça, c'est la première, parce que comment choisir ? Mais elles sont toutes belles, évidemment, c'est impossible de... Moi, je dis, quand on me dit quel est votre soif de Scarlatti préféré, je réponds toujours un truc différent de la dernière fois dernière.
Ouais, le choix est difficile.
Ça dépend de ce qu'on a écouté, l'humeur, bon, mais c'est toujours. Et donc, Scarlatti, quand il publie ses sonates, et les 30 premières qu'il appelle les exercices, il fait une petite préface où il dit à son futur interprète, il lui dit, tu sais, il faut que tu fasses attention, ne prends pas tout ça au sérieux, pas trop au sérieux, c'est pour s'amuser aussi, ne te fais pas trop critique, et il termine par ces deux mots extraordinaires qui est Vivi Felice. Voilà. Scarlatti souhaite à celui qui va le jouer d'être heureux, et c'est un peu ça aussi notre mission à la radio, Vivi Felice.
Et c'est ça que j'adore, derrière la musique, quelle qu'elle soit, c'est ces histoires qui se cachent derrière, on ne s'en rend pas compte.
Oui, et puis c'est une histoire incroyable, Scarlatti, c'est le, vous savez, c'est le fils d'une star de l'époque, Alessandro Scarlatti, qui rafle tout en prestige, en notoriété. Le pauvre Domenico, il est à l'ombre de son père qui lui fait de l'ombre, évidemment. Voilà, il part à Rome, il va à Venise, mais il ne trouve pas sa place. Donc un jour, ciao, bye bye, je vais en Espagne, et je vais au Portugal. Et c'est là qu'il devient le maître de musique de Maria Barbara. Et Maria Barbara, infante du Portugal, elle devient reine d'Espagne. Scarlatti à Madrid. Et donc voilà cet Italien napolitain qui devient espagnol, même si après tout Naples est espagnol à l'époque, mais voilà, et qui va aller à Séville. Donc dans ce qu'on a entendu là, on entend le tacon aussi du flamenco, il découvre tout ça. Scarlatti, c'est peu de choses de lui, hélas, mais on sait qu'il aime bien sortir la nuit et jouer. Bon, et donc sortir la nuit et jouer, il doit y avoir de la guitare, il doit y avoir forcément ce qu'on appelle déjà le flamenco à l'époque, et tout ça, il entend les cloches de la Giralda quand on va à Séville, quand on entend les cloches de la Giralda, la Giralda, sonner un 15 août, je vous assure, vous entendez tout d'un coup une sonate de Scarlatti. Je sais que je passe pour un dingue avec Scarlatti.
Non, mais c'est passionné.
Voilà. Et donc Scarlatti, c'est tout ça. Et puis, c'est quand même, il est né. Il y a des dates magiques hein, dans l'histoire de l'art. Hein. Mais en 1685, vous avez trois types qui naissent la même année: Jean-Sébastien Bach, Handel et Scarlatti. Alors Bach, évidemment, il recouvre tout le monde. Mais Handel et Scarlatti, les trois. Vous vous rendez compte, ces trois types là qui marquent l'histoire de la musique. Et Handel et Scarlatti se connaissent. Ils sont devenus copains, ils se tirent la bourre, parce qu'il y en a un qui est meilleur au clavecin que l'autre est à l'orgue. Et donc, voilà, si vous m'arrêtez pas, on est encore à 8h ce soir. Non, et on avait envie, voilà, il y avait tout ça, et c'est vrai que Scarlatti, ça, pour tout vous dire, ça se renoue à la passion de la radio, parce que quand j'écoute sur mon prix Dieu le samedi matin Pierre Bouteiller à France Musique, en 85, il invite Toscan Duplantier, que je connaissais grâce au cinéma, qui est devenu PDG des Râteaux, et qui dit, oh, voilà, mon cher Pierre Bouteiller, vous faire découvrir, hein, formidable, le Scarlatti par Scott Ross. Moi, je sais même pas combien il y a de thé à Scarlatti, hein, encore moins qui est Scott Ross et tout ça. Sauf que la musique jaillit du poste. Ça, ce qu'on a entendu là. Pas celle-là, mais je sais plus laquelle. Et là, je prends un coup de massue sur la tête. Mais vraiment, j'ai 15 ans. Et je prends vraiment, ça me rend dingue. Ça m'a rendu dingue. J'ai acheté ce coffret qui était hors de prix. J'avais pas un rond à l'époque, et c'est parti de là. Et ça, donc, ça vient aussi d'une émotion de radio, due à la radio.
Et justement, la radio, transition toute faite, on va y revenir. Marc Voinchet, avec votre histoire à vous, qu'on va reprendre. Du coup, on était à Radio Occitanie, on était à Radio Éphémère, à Radio France, Toulouse. Mmh. Vous, aujourd'hui encore, est-ce que vous gardez une oreille sur ces radios grâce à Internet ou...
Si je dis la vérité, j'ai pas. Non, je mentirais, je m'en veux un peu, mais c'est une. Enfin, après, il y a une question de temps, quoi. C'est-à-dire
bien
que
sûr.
Moi, je suis censé être payé pour écouter déjà France Musique.
C'est normal.
De temps en temps, je fais des incursions pour aller écouter les infos sur. Ou autre chose sur Inter, ou sur Info, ou chez les copains de FIP, ou Move, mais quand je le fais, je culpabilise, donc vite, je reviens à France Musique. Parce que j'écoute quand même la chaîne que je dirige et je me régale à l'écouter d'ailleurs, je dois bien dire.
Alors, vous parliez de France Culture juste avant, c'était l'étape suivante. Comment vous y êtes entré ? Parce que j'ai vu que Jean Tardieu, n'importe quoi, Jean Lebrun, il était pour quelque chose.
Ah ben voilà, vous avez cité voilà, encore un nom qui... Oui. Un jour, un dimanche, j'étais correspondant pour Culture Matin de Jean Lebrun, que je ne connaissais pas, un dimanche soir à 8h, moi j'en souviens, à 8h moins 5 du soir, coup de fil, allô, c'est Jean Lebrun. Bon, mais voilà, il me dit, voilà, quelqu'un de mon équipe va sans doute partir, il y a des choses qui vont changer, j'aimerais savoir si vous viendriez à Paris, Voilà. Alors là, un grand silence, c'est un truc que j'avais plus ou moins en tête, mais je savais pas comment, enfin, ça m'impressionnait, j'étais quand même, je faisais mes études, il y avait... Et voilà, en plus, la proposition était d'une élégance incroyable. Ça devait être au printemps, printemps 91. Et il me dit, écoutez, venez, si vous pouvez démarrer au mois de juillet, ça serait bien. Comme ça, si jamais ça marche pas entre nous, ou moi je suis pas content, ou vous, et qu'on s'arrête en août, que vous revenez à Toulouse, vous direz que vous avez fait un stage, que c'était un stage, quoi. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'échec. Enfin, vous rendez compte, le type qui vous dit ça? C'est dans mon métier, cette attention et amabilité, elle est rare quand même. Et donc ça, bon, bref, voilà, ça a duré un petit peu puisque je suis en train de vous causer là. Et pour tout vous dire, je dois ça aussi beaucoup à François Angelier, qui était venu à Toulouse faire un reportage. J'avais très mal pris cette histoire de François Angelier venant à Toulouse faire un reportage. C'était moi qui faisais les reportages pour France Culture. Il était hors de question qu'on vienne sur mon terrain. Mais évidemment, il me rencontre. Bon. Et en fait, il m'a espionné. C'est que c'est François qui il a pas fait le reportage du tout, il a fait semblant d'en faire. Il est remonté à Paris, il a dit à Lebrun, ouais, le petit gars là, ça le fera, oui. Donc si François Angelier, qui est devenu un ami, grâce à François Angelier, j'ai quelques notions d'ailleurs de religion que j'avais pas avant. Il sort son Bernanos là, il faut le citer. Et donc voilà, comment remercier encore François et Jean Lebrun. Alors là aussi, l'apprentissage sur le tas.
À la matinale,
reportage, voilà, Jean Lebrun me demande ce que j'aime, je dis que j'aime la musique, le cinéma et je sais pas quoi, et pendant 2 ou 3 ans, je n'ai jamais fait un sujet sur la musique, le cinéma, et j'ai fait le théâtre, j'ai fait des tas de trucs qui étaient moins dans mes... Mais c'est ce truc très très saint-simonien, justement, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage par ce qu'on ne sait pas faire, et pour se sortir un peu de soi... Et ça, je l'en remercie évidemment très grandement, cette formation-là un peu, qui est parfois un peu rugueuse, hein, mais qui fait jamais de mal, évidemment, mais qui est très riche d'enseignement. Mais encore une fois, sur le tas, en courant partout, je comprenais rien au tableau, moi je comprenais rien au nom qu'il y avait chez... Mais quand je dis ça, tous ont eu cette sensation-là, François Angelier, Ève Roger, Emmanuel Laurentin, que je salue, qui est évidemment aussi un ami depuis, on comprenait rien à ce que nous racontait Jean, mais on lui disait oui, on va le faire, et on le faisait, et puis c'est voilà quoi.
Avec succès, toujours.
Oui, bah, parfois pas. Parfois quand on se plantait sur un reportage et qu'on était un peu emmerdé avec ça, pour dire les choses clairement. Il y avait un réalisateur, je me souviens, qui est mort aujourd'hui, qui, je lui dis, oh là, je vais te virer, là, je vais te virer. Je lui dis, c'est nul, ce reportage, il est clairement nul, on n'y arrivera pas au montage à sauver ça. Le mec, il a pas parlé, j'ai pas trouvé la bonne personne. Enfin, il y a ça, on rate des trucs quand même. Et là, ce réalisateur, il m'a regardé, il disait, hey, Marco, arrête ton cinéma, arrête ton char, c'est que de la radio, hein. Bon. Ouais. Ok, voilà, et puis voilà, enfin, il n'y a pas eu trop de drame, a priori.
Bon, c'était une bonne chose.
C'était Georges Kiosef, je me souviens, ce réalisateur.
Et à France Culture, donc au bout de quelques années, vous parlez de cinéma, finalement, vous aviez pu en parler en devenant producteur d'une émission qui était dédiée, c'était « Personne n'est parfait ».
Oui, ça c'est grâce à Laura Adler, qui devient patronne de la chaîne, qui sait que j'aime beaucoup le cinéma. À l'époque, je faisais la revue de presse le matin... J'avais succédé à Emmanuel Laurentin, j'avais 5-6 ans de revue de presse à se réveiller tous les jours très tôt. Mais en fait, ça m'a toujours poursuivi, ça, j'ai réalisé que j'ai passé plus de temps dans ma vie à me lever très tôt, enfin dans la nuit, que l'inverse, ou presque, ou au moins une bonne moitié. Et oui, personne n'est parfait, parce que Laura Adler, un jour, c'est que, voilà, donc elle me confie cet hebdo. Et là, bon, oui, c'est une sorte de bouclage de rêve, quoi, de parler de cinéma, d'interviewer des cinéastes, d'aller au Festival de Cannes, enfin, tout le tralala. Et puis ensuite, ensuite tout arrive, hein, le magazine culturel qui a succédé au Panorama de France Culture. Alors là aussi, qui m'a renvoyé à mes tout débuts de correspondant pour le Panorama. Et là, oui, il y a une très grand plaisir et très grande joie de faire cette émission à la mi-journée, oui.
Et alors, le point d'orgue à tout ça, France Culture, c'est la suite, la matinale, dont vous devenez le chef d'orchestre pendant quelques années.
Six ans. Oui. Ah ben oui, là, je reconnais...
Belle reconnaissance, hein.
Je reconnais que ça m'a... C'est, il faut pas trop y rêver, parce que c'est, y a peu de place, et donc si on l'a pas, il faut pas être déçu. Bon voilà, et moi j'avoue que je faisais autre chose à l'époque, j'étais déjà dans un petit passage à France Musique, directeur adjoint, et puis là aussi il faut bien que je salue Bruno Patino, qui était nouveau directeur de France Culture, que je connaissais pas plus que ça, qui un jour entre deux ascenseurs me dit « Ah tu sais, il y a Ali Badou qui va s'arrêter, voilà, on pense à toi pour la matinale, est-ce que tu... Comme je n'aime pas qu'on me dise non, si on te le propose officiellement, est-ce que tu me diras oui ?» Ça, je me sentais toujours très... Salut Bruno. Très, très Bruno, c'était formidable. Et je reconnais que j'ai dit oui dans le souffle de sa question. Voilà. Et je lui ai dit, mais bon, j'ai une situation de boulot, j'étais directeur adjoint, j'étais donc pas précaire, comme on l'est quand on repart au micro. Et je lui ai dit, je sais qu'il y a sans doute pas que moi sur les rangs. Moi, je ferai pas campagne, je me doutais qu'il y avait un bon copain à moi qui était sur les rangs. C'est moi qui l'ai eu. Et je me souviens que c'est la première personne que j'ai appelée, c'est ce copain-là, en lui disant « Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est moi qui fais la matinale, et voilà. » Patino me confie ce 7-9, ce qui est devenu un 6,5-9 heures. Et le copain en question, qui est resté un ami, me dit « Bon, écoute, ben, on habitait à côté, ce soir, on boit un coup, on fait ça, et je pleurerai un peu sur ton épaule si tu veux bien. » Je dis « Allez, ok, allez, ça va, ça marche. Voilà. » Et c'était parti pour 6 ans, ouais.
Six années donc de matinale qui ont ensuite amené à un autre poste de chef d'orchestre. Bon, c'est pas à peine de spoiler puisqu'on l'a déjà dit dès le départ. Hein. Mais on va y revenir juste après une de la deuxième pause musicale et un deuxième choix de Marc Voinchet qui n'est pas anodin. Frank Sinatra et Carlos Jobim, The Girl from Ipanema.
Goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ooh. But I watch her so sadly. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim,
she never sees me.
Por causa do amor, ding, 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 ding.
The Girl from Ipanema. Alors, je connaissais la version chantée par Astrud Gilberto, comme je le disais hors antenne, mais là, c'est la version Frank Sinatra et Carlos Jobim qu'on a écouté.
Antonio Carlos Jobim, oui. Alors, Astrud Gilberto, fille de l'immense, on aurait pu passer aussi, évidemment, on aurait pu la passer par Jorge Gilberto. Oui, alors ça, c'est... Mais non, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a rien à dire. Tout a été déjà dit. Cela dit, c'est pas très loin. Vous voyez, il y a une filiation avec ce qu'on a écouté de Scarlatti. Il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse, avec un peu de tristesse, évidemment. N'oublions pas que là, on est au Brésil, Saudade. Bon, mais il y a des questions de voix pour les gens de radio que nous sommes, qui est extrêmement... Il y a une leçon avec Sinatra, c'est pourquoi c'est le premier crooner qui va plaire et aux hommes et aux femmes, parce qu'il roucoule pas. Vous avez remarqué, il roucoule pas, il n'y a pas de mauvais vibrato, pas de... Et puis il articule, quand il dit, il chante le sens des mots, quoi. Quand il smile, vous voyez le smile, véritablement, voilà. Et on comprend les paroles. C'est comme ça que les hommes se sont mis à aimer ce qu'on appelle la musique de crooner et tout ça, parce que il y avait quelque chose qui était une sorte de virilité au bon sens du terme, enfin de choses très très carrées, sans effet accrocheur, et bon, il a voix, quoi, cette voix qui est quand même incroyable. Et évidemment avec Jobim, vous entendez la guitare, vous entendez les arrangements, enfin il y a une sorte de douceur là dans cette musique là, c'est pareil, de tendresse, qui veut pas dire que ça raconte que des choses tendres, hein, du tout, mais il y a une attention tout de même à l'auditeur sur quelque chose de fraternel. Et chez Sinatra, il y a un truc d'assez fraternel. Je sais ce qu'on va me dire, la mafia, tout ça.
Oh, tout de suite.
Et puis faut pas oublier que Sinatra, il a beaucoup de défauts, ce garçon, je suis d'accord, mais il a aussi beaucoup de qualités, indépendamment de chanter comme il chante. C'est que c'est un des partisans et fervents défenseurs des droits civiques américains, quand la cause des Noirs est encore loin d'être réglée, bien avant Martin Luther King. Il impose des musiciens noirs avec lui. Dans les hôtels où il va, quand il va à Las Vegas, horrible tradition, que le chanteur blanc aille dans l'hôtel de luxe, et que les musiciens noirs aillent à 40 km dans un hôtel qui était pas... Et Sinatra, s'il n'obtenait pas que ces musiciens à lui soit dans le même hôtel que lui, il annulait le truc quand même. Et bon, ça c'est quand même pas rien. D'autres l'ont fait, quand Marilyn Monroe a fait un duo avec Ella Fitzgerald, et Ella Fitzgerald l'a remercié en lui disant: vous avez fait quelque chose pour moi qui fait que ça m'a terriblement aidé. Et Sinatra, voilà, fait ça régulièrement quand il prend comme jeune chef Quincy Jones. N'oublions jamais que Quincy Jones, je sais pas s'il est sur ces arrangements là, j'ai plus en tête, mais bon, c'est tout ça n'est pas fait au hasard. Chez lui, il y a un vrai militantisme qui se démentira jamais.
Et alors, il y avait un troisième choix, alors là, je vous disais parce que j'avais hésité, mais le troisième choix m'avait beaucoup surpris, je m'y attendais pas, c'était ça.
Snoop Dogg.
C'est ça. Il y avait trois S en fait: Scarlatti, Sinatra et Snoop Dogg.
Voilà.
C'était un peu la couleur que vous avez donnée à vos équipes quand vous avez été nommé à France Musique, hein, les trois S.
Oui, parce que c'était toujours en référence et au clin d'œil à Bouteiller. Mais voyez, c'est pareil. Là, qu'est-ce qu'il y a de très marrant là-dedans? D'abord, il y a les arrangements. Il y a ces trois notes de piano dont il faut que je demande à Max Dosolm où elles ont été, à qui elles ont été piquées. Parce que ça a été piqué forcément à quelqu'un. et comme font beaucoup les rappeurs et les hip-hoppers de,
du sample,
et j'ai toujours pas identifié ça, mais ça serait un petit Schubert que ça m'étonnerait pas, ou genre, bref. Et ensuite, il y a, alors, chez Snoop Dogg, ce qu'on entend là, l'idée de sortir de la caricature du rappeur noir qui gueulerait et qui serait alors sur ce coup-là ultra viril et qui taperait partout. Non, là, il met en scène la tendresse qu'on entend.
Cette tendresse qui revient dans chacun de vos choix.
Hein. Avec ses voix de garçon qui chante un peu en voix de fossé, lui qui est très smooth, alors sans doute se prend-il les substances qui l'aident beaucoup à être très smooth, et puis l'humour, il y a quand même beaucoup d'humour, c'est pareil, apparemment les paroles sont quand même assez dingues, assez crues et tout, mais il y a un petit second degré que j'aime énormément chez Snoop Dogg, à qui j'aimerais un jour parler pour lui parler de Scarlatti. Mais ça sera le plus très compliqué, je pense.
Moi, ce choix me faisait poser une question que je voudrais poser au directeur du hip-hop sur France Musique un jour. Est-ce que c'est concevable ou pas?
Mais c'est pas inconcevable, mais à vrai dire, il y en a tellement partout ailleurs que je sais pas ce qu'on apporterait.
Après, on a eu du rock et ou de la musique électronique, notamment dans la grille à certaines périodes.
Absolument, et que hélas, par moment, on n'a pas pu garder pour des raisons de complémentarité de programmes et de. Aujourd'hui, vous avez Move, il y a des radios où on passe plus de rock qu'on en passe à. Et nous, c'est vrai que moi, je l'entends toujours cette question. J'ai des envies comme ça. C'est vrai qu'en même temps, déjà qu'on arrive. Qu'on a du mal à caractériser la chaîne. Et puis surtout qu'on a quand même, on a plus de 1000 ans de musique à traiter, quoi, depuis Guillaume de Machaut. Donc, est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose que d'autres font très bien? Mm-hmm. Alors, ensuite, c'est pas interdit d'en parler en revanche, évidemment. C'est-à-dire que si quelqu'un veut en passer.
Avec une autre approche.
Ou comme peuvent le faire Chassol avec Saskia Deville, comme peuvent le faire, évidemment, les producteurs. Mais il faut que ça ait du sens. Il faut pas le faire pour le faire, je pense.
Mm. Et alors, pendant les attentats du Bataclan, c'était en 2015, donc. Peu de temps après votre arrivée à France Musique, vous aviez modifié les programmes, sans faire dans l'actualité, mais en adaptant la programmation musicale et l'antenne. Vous en avez fait une radio qui console.
Oui, cette idée que tout d'un coup, il fallait, dans ce moment de stupeur et de terreur qui était la nôtre, c'était de se dire que sans doute France Musique sera pas la chaîne que les gens vont aller écouter spontanément, vu que tout le monde voulait s'informer, se tenir au courant d'abord où étaient les gars et tout ça. Enfin, il y avait vraiment bon. Je me souviens très bien qu'il y a eu ce qu'on appelle un codir avec les directeurs et présidé par Mathieu Gallet, tous les directeurs de chaîne le lendemain matin des attentats. Et la discussion se fait entre les patrons de France Inter, de France Info, de Bleu, de France Culture, bon. Et je vois bien qu'on ne passe pas la parole ni à la patronne de FIP, ni au patron de France Musique. Et ce que je comprends parfaitement, j'avais fait quand même ce métier, j'étais de l'autre côté, donc je vous très bien. Mais, à un moment donné, je dis juste, je veux pas vous déranger, mais on va faire vite, sachez que moi, je mets toute l'antenne en direct. Pour que on réponde éventuellement à l'anxiété qu'il peut y avoir. On n'a pas de bougie à mettre sur le trottoir, mais on a des disques, c'est l'équivalent. Et surtout, nous, on va faire une antenne pour que quand on est trop anxieux de ce qu'on entend sur les chaînes d'info, si on vient sur France Musique, il faut qu'on souffle. Voilà. Et on va organiser ça comme ça. Et on a changé toute l'antenne comme ça. Et c'est là que j'ai vu ce truc de radio qui est quand même, c'est qu'il y a des mails, et en général, quand on reçoit des mails, c'est pour se faire engueuler. Bon, c'est comme ça, c'est tant mieux, il faut bien qu'on se fasse engueuler, on fait pas tout bien. Mais là, on voit des mails arriver en disant, merci, quoi, ça nous fait plaisir, on souffle. Ah, c'est bien, voilà. Et du coup, le week-end d'après, on a recommencé en faisant plus d'interactivité encore avec les auditeurs, en leur disant, dites-nous ce que vous voulez passer en hommage aux victimes du Bataclan. Et on va le passer, et on va le faire. Et sur ce principe que, un disque, une bougie, pour nous, c'était les disques. Et l'idée, de se consoler, comme Scarlatti le fait avec Maria Barbara dans certaines sonates, on sent bien qu'elle est pas bien la fille parce qu'elle a une vie d'enfer, la cour d'Espagne est mortifère et Scarlatti lui fait des petits trucs pour la consoler et qu'elle joue. Voilà. Et ben nous on a voulu la radio c'est ça, hein, c'est la radio, c'est on se donne la main virtuellement, quoi, on se serre la pince, quoi. Et voilà comment je.
Une radio qui accompagne, pour résumer.
Oui, qui accompagne, qui. La radio, c'est ça, de toute façon, on se laisse accompagner tout le temps par la radio. Enfin, je dis ça, je sais bien que les usages changent, et que là, j'ai 272 ans maintenant. Mais les usages changent, c'est vrai, de l'écoute de la radio.
La mécanique des ondes.
Marc Voinchet, directeur de France Musique, qui donne le la au sein de la radio au carré. Alors, je sais jamais, est-ce que c'est un carré marron, un carré pourpre, Bordeaux ?
Suspense.
Libre à chacun de l'interpréter comme il le veut.
On n'a jamais le même pantone, on n'y arrive pas. On va dire que c'est Bordeaux, rouge...
Ouais, voilà, selon les écrans, on dira.
Voilà, rouge rideau d'opéra, quoi.
Voilà. Joli, très joli.
Ouais, on essaye. Ouais.
On va passer à la partie questions maintenant, Marc Voinchet. On va commencer avec la question capsule, la capsule temporelle avec une question à l'intérieur posée par l'invité précédent. C'était Hervé Gotchaud du CSA. On l'écoute.
Bonjour Marc Voinchet. On le sait, les plus jeunes sont moins enclins à écouter la radio que leurs aînés, préférant souvent d'autres médias sur Internet. Alors ma question est la suivante. Comment, selon vous, la radio peut-elle leur donner envie de venir ou de revenir vers elle ?
Ouh là là, Monsieur Gotchaud, merci de cette question facile à répondre. Non, mais comment on fait nous ? Ce qu'on essaye de faire à France Musique, justement, c'est de se dire qu'il y a effectivement ces jeunes publics qui, a priori, sont pas trop forcément versés vers nous, tournés vers nous. On essaye de les accrocher, on va dire, voilà, de nous montrer à eux par les nouvelles manières d'écouter la radio, justement par le podcast natif. Alors nous, on a eu beaucoup de soucis pour faire du podcast natif parce qu'on n'avait pas les droits. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, on s'en sortira pas, mais il nous fallait des droits musicaux puisqu'on faisait un produit qui ne passait pas chronologiquement par l'antenne, donc on avait des problèmes de droits musicaux. Bravo au service juridique de Radio France qui ont fait des miracles et qui nous ont obtenu des choses qui font qu'aujourd'hui on en fait. Alors qu'on essaie de faire des choses qu'on fait pas forcément à l'antenne, des choses assez drôles, comme avec Saskia Deville, les instrus, où on a Florence Foresti qui fait la trompette avec un vrai trompettiste, voilà, on a voilà, plein de Jean-Pascal Zadi, Alex Vizorek qui fait les cymbales et avec un vrai percussionniste, bon, donc dans des formats assez courts, assez joyeux, assez drôles. On fait les journaux intimes, là on a fait un journal intime de Mozart, journal intime de la Calas, qui sont la plus grand public, on va dire, mais qui peuvent parfaitement ne pas défriser un ado. Pour les petits, je sais pas encore, on y travaille, on y réfléchit. Mais il y a les Oli de France Inter qui font très bien le travail. Donc voilà, pour attirer un peu tous ces gens-là. Puis on a aussi notre première grande fiction loufoque, qui s'appelle 1514, qui est une espèce de Camelot classique de musique de la Renaissance, un retour vers le futur, façon musique de la Renaissance. Je vous invite à y aller, à le podcaster, 1514. On a que de très bonnes réactions pour l'instant, et ce qui est très très nouveau pour nous, ce genre de radio, et on en est content, voilà, on continue, voilà comment on essaie de faire.
On essaiera de partager le lien du podcast, justement, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Il nous reste 2 minutes, Marc Voinchet. 2 minutes pour faire quelques questions rapides. On y va ?
Donc, réponse courte, oui.
Allez, c'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ?
Pierre Bouteiller.
Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ?
France Inter et France Culture.
Quelle radio vous réveille le matin ?
France Musique.
Quelle radio vous endort le soir ?
France Musique.
Un endroit où vous écoutez toujours...
C'est pas bon signe, c'est là quand... Non, je rigole.
Un endroit où vous écoutez toujours la radio ?
Tout le partout.
Alors, un endroit où vous l'écoutez jamais ?
Non, j'écoute la radio partout.
Votre meilleur...
Peut-être sous l'eau, j'ai pas encore essayé sous l'eau, oui, je vous l'accorde, voilà.
Un endroit où vous... non. Votre meilleur souvenir de radio ?
C'est impossible, ça. D'avoir rencontré Daniel Cordier et Patachou.
Le pire souvenir ?
Non, là on va dépasser le temps. Il y a des mauvais souvenirs. Oui.
Alors, on va finir avec un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio.
C'est d'en faire. Il faut rentrer par la fenêtre. Alors c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais rentre par. Là j'ai 335 ans. C'est petit. Mets le pied dans la porte. Et mets le deuxième dès que tu peux. Rentre. Si on te fout dehors, rentre par la fenêtre. Ressort par la cheminée. Et, voilà, fonce. Il faut foncer. Mais aujourd'hui c'est quand même relativement facile. On va dire, je dirais. Mais il faut y aller. Il faut y aller. On a besoin que les gens défendent la question de la radio, quel que soit le support, que ce soit le hertzien, le podcast, le numérique, ça reste, quand on fait du podcast natif, comme on dit, pardon, mais on fait de la radio, quoi, on fait jamais que de la radio. Donc, non, il faut y aller, on a besoin de gens qui la défendent, cette radio.
Merci beaucoup Marc Voinchet d'être passé avec nous dans la Mécanique des Ondes, et on souhaite de belles choses à France Musique pour la suite.
Merci à vous.
Prochaine Mécanique des Ondes, le mois prochain, si tout va bien. En attendant, rendez-vous sur lamecaniquedesondes.com et sur fréquenceprotestante.com pour les podcasts.